.com.
Après les mercredis des dames, voici les mercredis de Bruno Gervais.
On the right wing side for Gervais, shot scores!
Alors, on va aller là. Tu l'as réveillé, Pierre?
Disons qu'il était un peu surpris que le segment se déroule à l'heure prévue.
Absolument.
OK, c'est... mais donc il dormait encore. Fait qu'on va, il est en pyjama. il a son pyjama des Whalers. C'est sûr qu'il a un pyjama des Whalers. Bruno Gervais, bon matin!
Salut la gang! Non, ça fait un bout que je vous regarde sur Twitch, mais j'ai été très surpris. C'est quoi, il manque de sujets ce matin? Qu'est-ce qui se passe que je sois à l'heure?
Non, c'est qu'on fait des tests avant ma semaine de vacances parce que on va faire des petites modifications. On s'enfarge dans la pub entre 9h et 10h, fait qu'on essaye de redistribuer ça. En tout cas, c'est de la technique, là, c'est plutôt complexe. hey, Bruno, je t'agace en disant je le réveille. Quel âge que tu as actuellement?
Moi, j'ai 36 ans.
OK. Ben, t'es encore très jeune, mais quand tu joues au hockey dans la Ligue nationale, tu sais, c'est parce que j'ai l'impression qu'un joueur de hockey, ça se lève jamais avant 11 heures. Fait que, c'est-tu le cas, quand tu jouais junior que tu jouais pro, tu sais, parce que, évidemment, vous travaillez le soir. Si on appelle la game de hockey un travail, vous travaillez le soir, je le sais, on joue dans des ligues de garage. Nous autres, c'est impossible d'aller se coucher quand on rentre à la maison. Les habitudes de vie, en plus, t'es dans la mi-vingtaine, fait que t'as pas envie de te coucher à 10h15. Est-ce que tu vis plus de nuit puis tu te lèves plus tard? Comment ça marche?
Ben, habituellement, là, si on parle professionnel, parce que c'est sûr qu'au niveau junior, il y a l'école. Puis moi, j'allais à l'école, à une école secondaire là de la région, donc c'était l'heure normale, puis il fallait que je sois à l'école à 8h le matin, puis peu importe les pratiques, nous, t'es en fin d'après-midi. Mais au niveau de professionnel, c'est que tes entraînements pendant la semaine, les pratiques, habituellement, ça va varier d'équipe en équipe, mais ça tourne autour de 10h, 10h30. Le but, c'est que ça soit fait en avant-midi, de tout avoir fini pour l'heure du dîner, parce qu'après ça, tu peux aller luncher, puis ta journée est terminée. Donc, si tu es sur la glace autour de 10h30, ben, habituellement, tu vas être à l'aréna à 8h30, 9h au plus tard, mais il y a tout le temps, que ça soit rencontre vidéo, que ça soit un entraînement avant, que ça soit l'équipement, les traitements, peu importe. Fait que t'es là assez tôt le matin. Fait que oui, il faut que tu sois capable de t'ajuster parce que tu passes d'un horaire qui est tôt le matin à un horaire, comme tu dis, qui est tard le soir quand tu joues deux matchs en deux soirs ou trois ou quatre matchs dans ta semaine. Ben, à chaque fois que tu joues ces matchs-là, c'est pas vrai que t'es couché 11h30 après le match. C'est dur de s'endormir après un match. Donc, de balancer, d'être très tard une journée, là, tôt le lendemain, ça peut devenir difficile. Plus ça va, il y a des équipes qui se sont ajustées à ça. Je me rappelle qu'on était à Philadelphie. Peter Laviolette avait fait amener quelqu'un pour des études sur le sommeil. Et c'était important pour les gars de récupérer, de laisser le temps aux ceux qui ont des familles d'aller porter les enfants puis qu'ils soient capables d'arriver à l'aréna puis qu'il y a eu une bonne nuit de sommeil quand même. Fait qu'il y a de plus en plus d'équipes qui aimaient repousser leurs entraînements pour y aller un peu plus dans un mode de soirée ou de nuit à cause des matchs, puis que les gars soient capables d'aller chercher leur sommeil, puis pour ceux qui ont des familles, d'être capables de pas être rushés le matin, d'être là, d'aider, laisser les enfants aller à l'école, puis après ça, venir aux entraînements.
C'est ça, puis ça, c'est la journée de bureau typique, là, mais mettons que tu étais à New York ou encore à Philadelphie, tu joues à Saint-Louis au Minnesota, puis c'est la dernière game du voyage. Après la game, tu reviens chez vous, là. Mais là, en plus, tu reviens contre le fuseau horaire de une heure ou deux, selon l'état où tu étais. T'arrivais chez vous dans le milieu de la nuit, probablement. Est-ce que j'invente ça ou c'était vraiment comme ça?
Ah non, c'est comme ça. On venait tout le temps après les matchs. Quand tu pars, là, des fois, tu peux partir de très loin quand tu es dans l'ouest, etc. Fait que oui, on revenait ces petites heures du matin. Des fois, on pouvait arriver à la maison. Il devait être 5h du matin, puis là, ça, c'était ta journée de congé. Habituellement, dans ton horaire, les horaires de voyagement vont être faits comme ça, où au moins, tu peux profiter d'une journée de congé avant de revenir. Même s'il y avait un match le surlendemain, là, c'est une journée de congé, puis le prochain entraînement va juste au matin du match. C'est pour ça que les entraîneurs, dans la Ligue nationale, t'as pas beaucoup d'entraînement de qualité. Beaucoup de ça, c'est juste la gestion de la fatigue, la gestion de ces voyagements-là, de ces entraînements-là. Donc, un entraînement de qualité où tu peux vraiment aller travailler ton côté tactique puis pousser la note, t'en as pas beaucoup dans une saison. Fait que c'est tout un défi pour les entraîneurs de gérer tout ça il y a de plus en plus de données. C'est fou les données qu'ils peuvent avoir pour ce qui est à quel point les joueurs sont au maximum de leur capacité physique, s'il y a de la fatigue qui commence à s'installer. Mais ça fait partie de ça. Puis Martin Saint-Louis l'avait super bien résumé. Il avait dit, pour avoir du succès dans la Ligue nationale comme équipe, il faut que tu aies une équipe qui soit capable de jouer à 85% de tes capacités et avoir du succès. Parce que tu es tout le temps autour de ça avec tout ce qui se passe au niveau de l'horaire.
Mais mettons deux games en deux jours, là. Tu sais, j'ai de la misère à honnêtement, j'ai de la misère à trouver ça fatigant. Puis en plus, là, vous êtes top shape. Tu joues, mettons, quand t'es très bon, t'as 15 minutes de temps de jeu. Là, l'élite va avoir 20, mais mettons 15. C'est qu'est-ce qui est brûlant dans. Puis je le sais, me semble que c'est exagéré de dire hey, on vient fatiguer raide. Mais, non, tu joues au hockey 3 heures de temps, là.
Non, mais c'est sûr que si c'est tout est dans l'effort que tu mets parce que, gars. De passer deux soirées de suite là, à prendre une coupe de bière, à être relax puis à jaser tard, là, ben, c'est pas grave. Le lendemain, tu prends un café puis c'est pas grave, t'as pas peur à l'erreur. Mais l'affaire là-dedans qui est difficile, c'est que mentalement, tu te dois d'être engagé à 100%. Puis c'est comme faire, tu sais, quand tu fais un long cours que tu dois d'écouter puis ton attention est là. Le côté mental devient épuisé pour ça parce que t'as pas le droit à l'erreur. L'intensité du jeu quand t'embarques sur la glace, c'est à 100 000 à l'heure. Et ensuite de ça, le soir, après ton match, il n'y a aucune chance que tu t'endormes à minuit. Fait que tu te couches un peu plus tard ce soir-là, tu as reçu des coups, tu as reçu ci, tu as reçu ça, tu as mal là, puis le lendemain de repartir, puis c'est de te recrinquer. C'est pas de passer à travers une journée normale qui est difficile, c'est de venir atteindre encore le niveau, le sommet, dans le fond, le pic, le niveau élite pour ce qui est de compétitionner dans la Ligue nationale. Puis une équipe qui l'a fait la veille, c'est très difficile de revenir à ce niveau-là. Donc, quand tu joues deux matchs en deux soirs, tu fais face à une équipe qui n'a pas joué la veille. Là. Eux autres, de la veille, c'était le repos. Fait qu'ils sont capables de peser sa pédale à gaz au bon moment. Toi, c'est de recrinquer ça mentalement et physiquement en dedans de 24 heures. C'est ça qui est très difficile à faire sur une longue période de temps. Dans un court tournoi, ça se fait. L'adrénaline embarque, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es rendu à un mardi soir du mois de novembre à Nashville, c'est là que mentalement, c'est le défi de tout le temps te recrinquer.
Donc c'est clair, Bruno, là. Quand tu jouais, là, c'est clair que, parce que c'est ce que tu viens de dire, je veux bien comprendre, que si, mettons, tu étais à domicile, puis vous receviez une équipe qui avait joué la veille, ça veut pas dire que vous gagnez automatiquement, mais vous partiez avec un avantage.
C'est certain qu'il y avait un avantage, tu le savais, ça fait partie du plan de match, surtout au début parce qu'il y a cet aspect-là mental, puis c'est ça qui est le, pour les joueurs de ramener ça, de se recrinquer pour ce match-là, en deux matchs en deux soirs. Les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, c'est un cliché, tu l'entends souvent, mais c'est là que tu veux semer une graine mentalement pour leur faire comprendre que la soirée va être très difficile. Fait que tu commences avec ton trio d'énergie, tout le monde s'implique physiquement, c'est toutes les rondelles dans le fond, puis si tu commences un bon match comme ça, là, mentalement, de l'autre côté, eux autres qui se remettent de la veille, qui peu importe les hauts ou les bas d'émotions qu'ils ont eu la veille, ben là, ils vont dire « Ah, tabarouette, ça va être long. Ah, là, ça va être dur. » C'est ça le but de profiter de ces 10 premières minutes-là. C'est que tu veux réussir à faire abandonner l'autre équipe d'une façon mentalement, un certain niveau mental. Donc, c'est ce côté-là. Puis les deux matchs en deux soirs, de ramener ce niveau d'énergie-là, d'intensité-là, puis là, tu sais que t'as une journée de congé, puis là, faut que tu recrains ça le lendemain. C'est ça qui vient dur à faire pendant 82 fois, condensé comme ça dans une saison.
Bon, la journée typique au bureau, là, quand t'es un joueur de la Ligue nationale, c'est-tu le fun flâner à l'aréna? Tu sais, nous autres, dans la vie normale, là, quelqu'un qui arrive au bureau le matin, des fois, il va arriver avant que son chiffre commence à 8 heures, va se faire un café, il va spotter la plus belle des employés, puis il a passé une belle soirée hier, il va jaser avec. Là, vous autres, je comprends que c'est juste des gars, mais donc, c'est-tu le fun d'un peu flâner au bureau, soit avant ou après, ou si la plupart des gars y arrivent, ils s'habillent, puis on s'en va après, là, le plus tôt possible, s'il n'y a pas de meeting ou rien. C'est-tu plus ça, c'est comment?
Bien, un peu comme tu viens de décrire, comme au travail, tu as toutes sortes de personnalités. Il n'y a pas une façon de faire. T'en as qui sont là, qui arrivent avant les trainers. T'en as que les trainers n'ont pas le choix de leur dire de slacker, d'arrêter chercher un café puis de le boire au restaurant à place d'arriver parce qu'ils arrivent trop tôt pour donner le temps à s'installer.
Est-ce que c'est les meilleurs, ça? Est-ce qu'on peut catégoriser la qualité d'un joueur par le fait que, ou si même un pas bon arrive des fois même avant des trainers?
Non. Ben oui, oui, il y a des pas bons qui sont leftos quand même. Mais non, c'est peu importe, c'est la personnalité. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui vont mettre l'effort, il y en a qui vont le mettre après un entraînement, il y en a qui aiment ça le mettre avant un entraînement. Tout le monde a sa routine. Il y en a là qui, c'est tout le temps, ils arrivent à la minute avant l'heure qu'il faut être là. Même affaire dans n'importe quelle sphère de la société, dans n'importe quel travail. Il y en a que c'est ça. Il y en a là que t'as même pas le temps de voir. La pratique finie, puis là, c'est comme de la boucane de ninja, ils disparaissent puis ils sont partis chez eux.
Ah ouais,
hein? T'en as qui vont traîner là, que c'est les trainers qu'il faut qu'ils sortent à coups de pied. Va-t'en chez vous, là, il y a d'autres choses à faire. Fait que tout le monde a leur façon de faire, tout le monde a développé leurs habitudes à travers ça. Puis c'est ce qui fait la beauté d'une chambre puis de d'une équipe comme ça. T'es avec ces gars-là à tous les jours,
c'est
longtemps.
Différent.
Fait que t'apprends à connaître ces personnalités-là rapidement.
Ben, je sais pas, moi, quelqu'un qui se sauve immédiatement après la pratique, qui se dépêche, qui est toujours pressé, ça me fait penser à quelqu'un.
Ah ouais, tu trouves que je m'en vais vite? Ouais, mais moi, quand je finis, ben, moi, ça m'avait frappé, puis je pense que c'était Peter Stachny, mais je suis pas certain, mais je suis pas mal certain. J'étais allé voir un match des Nordiques, puis il y avait une rare victoire, là, il avait gagné, puis et il était, les joueurs se donnent la main, ils débarquent, ils se donnent pas la main à l'autre équipe, juste entre eux autres, ils débarquent, et mettons, Peter a la première étoile, et il revient, puis il est en combine. Là, je me disais, hey, tabarnak, tu sais, moi, j'ai le temps de prendre une douce.
Hein? Salut à la foule.
Ouais, mais il était en combine. Il est venu sur le bord, ce matin, là. Il s'était déshabillé, genre, en une minute et demie, là.
Ben, c'est souvent, dans les entraques, les joueurs, ils enlèvent beaucoup d'équipement, là.
Le haut, hein, ça va assez vite, là. Mais c'est pour ça, donc, ça. Puis, de toute façon, vous faites pas vos poches, là, jamais. Là. C'est pas toi qui ramasses ton stock. Tu pitches ça à terre ou.
Dans un sac, dans une poche, souvent.
Oh non, mais ça c'est un savoir-vivre, ça c'est, ouais, c'est habituellement, puis même il y a des gars qui le font, puis je pense que c'est un exemple, chez Weber, c'est quelque chose qui a même instauré avec le Canadien, c'est un respect. Ces trainers-là, la job qu'ils ont à faire pour, au nombre de personnel qu'il y a là, ils en ont beaucoup, ils en ont plein, ils cassent, puis c'est une des choses que tu vas faire par respect. Souvent, non, t'arrives, ta poche, les trainers, ce qu'ils font, c'est qu'ils déposent les poches devant nos cases quand on sort de du match, parce qu'ils savent qu'on a à faire notre poche, exemple, après un match. Ben, elle va être là. Tu rentres et tu te déshabilles. Dans le fond, tu mets tout ton équipement dans la poche. Tu t'assures de tout prendre ce que tu as besoin pour, exemple, on s'en va sur la route. Tu prends tout ce que tu as besoin, tu mets ça dans ta poche, puis il y a des gars qui laissent leur poche là, il y a des gars qui la laissaient tout croche, comme un peu n'importe qui, il y en a qui se ramassent pas, il y en a qui laissent ça de même, mais le respect, c'est que tu prends, tu ramasses tout dans ta poche, tu zippes ta poche, puis Colin, t'es capable de traîner ta poche, tu la prends, puis tu l'amènes, il y a un chariot à l'extérieur de la chambre qui attend les poches justement pour la rouler jusqu'au camion, tu la prends, tu l'amènes sur le chariot, t'aides les gars d'équipement, ils courent comme des Mongols ces matins-là, ou ces journées-là, ou peu importe, fait que de juste faire un geste comme ça, d'aider, ça vaut la peine, ça fait toute une différence pour eux.
On entend souvent qu'à la fin de la saison, les joueurs sont généreux avec ces gars-là qui vous torchent d'une certaine façon là et qui vous rendent service pendant toute la saison. C'est vrai ça que financièrement, vous leur faites chacun des joueurs à la hauteur de leur salaire, j'imagine, un cadeau ou un petit bonnet en argent?
Oui, il y a un bonnet à la fin. C'est compris parce que ces gars-là... avec tous les sacrifices qu'ils font, puis le genre d'horaire qu'ils ont, le ferait pas avec le salaire de base, le salaire que c'est comme, c'est compris. C'est le fait que c'est basé un peu sur le fait qu'il va avoir des tips, là, un tip à la fin de la saison. Il y en a souvent autour de Noël, j'en donnais tout le temps à Noël, puis à la fin de la saison. Et c'est quelque chose qui est basé un peu sur la relation que tu as avec lui. Tu sais, des saisons que moi, exemple, j'ai été blessé, puis tu passes tes journées à arriver tôt le matin, puis le trainer vient plus tôt pour avoir le temps de faire la réhabilitation avec toi, qui revient le soir, qui fait ci, qui t'aide dans tout ça, ben c'est sûr que tu vas vouloir le récompenser, tu vas vouloir le remercier pour ça.
Mais combien à peu près?
Ben ça va varier des salaires, puis ça va varier avec la mentalité du joueur. J'ai joué avec des très hauts salariés qui ne comprenaient pas ce concept-là, puis j'ai joué avec des gars qui faisaient beaucoup moins, mais qui respectaient ça, puis qui comprenaient ça. Mais je te dirais que moi, autour de Noël, là, c'était un 1 000 $, un 2 000 $, puis envers la fin de saison, un peu plus, là, mettons, 3 000 $ pour exemple, le trainer, puis après ça, le gars d'équipement. Puis tu y allais tout le temps selon l'utilisation que tu avais avec eux là, de tes besoins. Il y en a qui ont des superstitions, que le trainer prend une heure et demie de sa journée à chaque jour pour tout placer, tout amener, avoir sûr que ça c'est là. Il y en a qui sont un peu prima donna comme ça. Fait là, t'espères que le type vient à la fin de la saison, c'est certain, parce qu'il a demandé beaucoup plus d'efforts.
Oui, c'est assez particulier. Là, on est dans une période de vacances, qui est pas normale à ce temps-ci de l'année pour les joueurs de la Ligue nationale. Normalement, quand c'est les vacances d'été, j'imagine que aussitôt que tu es éliminé, soit des séries ou en série, les gars vont dans le sud un peu, profitent de la vie, le golf en venant. Puis l'entraînement reprend souvent assez rapidement. De ce que j'ai compris, après soit deux semaines jusqu'à un mois, mais on reprend l'entraînement pendant l'été. Avoir des vacances à cette période-ci, j'entendais Dano, je veux dire son prénom, je m'en souviens pas, Philippe Dano, qui a gagné le trophée Jean Béliveau. Donc dire ouais, c'est difficile par les temps qui courent de s'entraîner, mais je réussis à patiner quand même presque à tous les jours. Sais-tu, là, ils sont en vacances, mais c'est-tu des vacances, les gars patinent-tu pareil, c'est-tu pesant de s'entraîner? Comment tu penses que ça se passe dans une période qui est non encadrée là, comme actuellement?
Ben, c'est comme une saison morte. Habituellement, pendant la saison morte, comme tu as dit, quelques semaines de congé, puis après ça, les gars reprennent l'entraînement. Fait que oui, les gars s'entraînent présentement. Sont chacun dans leur bulle. Je veux dire que avec ceux que je parle, ils trouvent le temps très, très long. Il y en a qui oublient que c'est des joueurs professionnels qui ont une profession, parce que c'est tout ce que tu fais, c'est ta routine, c'est ton entraînement. Puis merci, bonsoir. Il n'y a pas rien d'autre à faire dans ta journée. Tu peux pas. Il n'y a pas d'événements, rassemblements, peu importe. Tout le monde est un peu confiné. Fait que ces gars-là trouvent le temps long, trouvent une façon de patiner. C'est sûr que c'est pas des groupes comme ça a déjà été. C'est pas des entraînements comme ça a déjà été. Fait que tout le monde essaie de trouver leur place où ils peuvent aller patiner, s'entraîner. Mais le monde, les gars sont en préparation. Parce qu'il faut qu'ils soient prêts. Il y a eu le 1er janvier qui a été lancé. Je serais très surpris que ça arrive, mais les gars n'ont pas le choix d'être prêts pour ça. Puis il y en a pour qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué au hockey. Quand tu penses aux Sénateurs d'Ottawa qui ont fini au mois de mars dernier, tu seras pas loin d'un an là, d'arrêter. Là, tu vas être à 10 mois si ça reprend en février. C'est quelque chose qui est une très, très longue période qui est difficile à gérer. C'est cas par cas. Mais c'est de réussir à, dans ta bulle, avoir tout ce que tu as besoin pour te préparer. Mais mentalement, c'est là qu'il y a le défi. Puis à tous les gars que je parle, là, c'est l'entraînement d'une été, les gars vont pousser dans le tapis. Mais quand tu sais que tu as une date de fin, tu sais que t'es supposé être prêt pour telle date, ça l'aide énormément à la motivation. Mais d'y aller avec cette même intensité-là, puis pas savoir quand tu finis. Moi, je l'ai vécu en 2012 quand il y a eu l'arrêt de travail. Puis un moment donné que tu frappes une écœurante titre, que tu te cherches. Fait que les gars, t'es parti, puis on est allé jouer en Europe. Moi, j'étais allé jouer un mois à rejoindre le Jonathan Bernier en Allemagne. Il fallait que tu changes de décor, fallait renouer avec la compétition, avec la glace. Puis ça, c'est important. Là, les gars vivent ce défi-là, mais là, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont vraiment pris. Fait que mentalement, c'est tout un défi pour ces gars-là d'être préparés. Puis c'est pour ça que l'espèce d'idée d'avoir un camp de sélection très court pour partir la saison rapidement passe pas bien chez les joueurs, parce que ils vont avoir besoin de se préparer au niveau de compétition de la Ligue nationale à cette intensité-là sur la glace avec leurs coéquipiers.
Ouais, mais au moins s'il y avait une date, si c'était certain que le 1er janvier ça commence, ben là ils pourraient ajuster leur gradation d'entraînement, puis même s'il y a un court camp, au moins ils pourraient arriver prêts, parce que on est quand même assez loin encore du 1er janvier, mais ne sachant pas quelle date ça va commencer, mais ils peuvent pas mettre le pied sur l'accélérateur tant qu'ils ont pas une date claire. Là.
Exactement, parce que tout est synchronisé dans tout ça. Dans ton entraînement, quand tu finis ta saison, tu le sais, OK, tu vas avoir 16 semaines, 17 semaines, peu importe, voici, il y a un plan. Puis c'est un peu comme un escalier. Tu sais, tu vas atteindre un niveau, tu le maintiens pendant une semaine, tu relèves d'un autre niveau, tu le maintiens pendant une semaine. Puis ton entraînement, ta charge d'entraînement va être basée comme ça. Ensuite, tu amènes la glace. Mais le but, c'est de te préparer à une saison de Ligue nationale. C'est pas juste d'être au sommet de ta forme, mais c'est de préparer ton corps à passer à travers la graine d'une saison complète. Mmh. Et là, ce qui est dur à timer avec tout ça, puis à réussir, c'est de pousser la machine au bout, mais pas de la taxer ou de la surtaxer par le fait que ce qui va suivre, c'est une saison de la Ligue nationale. Fait que tu peux pas commencer à accumuler des bobos ou commencer à descendre ton niveau d'énergie parce que tu essaies de maintenir un niveau d'intensité très élevé pendant longtemps. Tu as besoin d'incorporer ces repos-là ici et là, mais de savoir quand les mettre, c'est ça le défi présentement. Fait que tous les gars essaient d'y aller, écouter leur corps, d'y aller comme ils peuvent. Ils poussent la machine le plus possible. Il faut que tu regardes de garder en tête que c'est pour te préparer pour une saison.
Bon, dernière affaire, Bruno, puis là, on va peut-être fouiller dans ta mémoire. Est-ce que tu as connu, puis que ce soit dans ton équipe ou dans des équipes contre qui tu jouais, des contaminations? Là, évidemment, là, c'est le coronavirus, puis je sais que c'était pas ça, mais as-tu eu des... Je me souviens, les Remparts, quand Philippe Boucher coachait, il avait été obligé de prendre une pause d'entraînement, puis il avait fait désinfecter le vestiaire, parce qu'il y a un joueur qui est arrivé avec un genre de gastro, un genre de grippe ou de rhume, puis il a pas fait attention, puis là, il y en a plusieurs, il était tombé 10 ou 11 malades. Toi, ça t'est-tu arrivé? Tu sais, est-ce qu'on est prudent? Là, je vois l'équipe Canada Junior, là, qui a le coronavirus, je comprends qu'on le voit pas arriver. Là.
Ça arrive à toutes les années, là, vraiment.
À toutes les années. Qu'il y a des épidémies de rhume, mettons.
Comme dans la vie. Tu sais, le sport, il n'est pas différent de la vie des gens normaux. Là.
Non, mais même plus que ça.
Le virus, il s'attaque aussi à ces athlètes-là.
Oui, puis même encore plus, parce que dans la chambre de hockey,
c'est plus restreint.
C'est encore plus petit, puis on est plus en contact physique. Toi, tu l'as-tu vécu, Bruno, des choses comme ça?
Oh oui, on l'a vécu, puis à chaque année, il y avait un moment comme ça, c'est certain, mais il y a des moments que c'était plus intense, parce que le problème là-dedans, c'est que tu le dis, dans une chambre de hockey, on est toutes prêtes, fait que la contamination se fait rapidement, puis t'as besoin de ces gars-là. T'as besoin d'être un match le lendemain, t'as besoin de ces gars-là en santé, que ça soit des gastro qui se sont promenés, que ça soit n'importe quel genre de grippe, de virus. Ben quand tu tombais, quand tu passais de un cas, deux cas à 5-6 d'un coup le lendemain, ben là, c'était la panique générale. Là. C'était de mettre les gars de garder les gars dans les chambres. Il y a des pratiques qui se faisaient canceller. Puis là, les trainers, c'est drôle, un peu à l'image du COVID, mais t'en rentrais dans la chambre avec des masques. Puis ça nettoyait tous les équipements, ça désinfectait le tout. Ça, c'est arrivé à quelques reprises. Les bouteilles d'eau personnalisées. C'est de prendre ces précautions-là. Puis surtout le staff, que lui avait besoin d'être là, c'est de s'assurer qu'eux autres étaient en santé, puis qu'ils lavaient leurs mains, même qu'ils mettaient les gants pour être certains. Je me rappelle une fois, il y avait eu... Je me rappelle pas du nom. Là, c'est une genre de bactérie qui... c'est une infection qui se propageait à travers l'équipement, mais qui faisait que les joueurs, le visage enflait énormément, puis certaines parties du corps, c'était... c'est que les gars d'équipement, même chose. Ça a été la grosse affaire de tout laver l'équipement, même qu'il a fallu... On a changé quelques pièces d'équipement, pratiqué avec notre jouer avec notre équipement d'entraînement, quelques matchs pour être certain que tout soit désinfecté. Fait que, oui, quand ça rentre, c'est pas long que les équipes tombent en mode là. Faut essayer de séparer tout le monde, faut pas que ça se propage, pour essayer de garder tout le monde ou le plus de joueurs possible en santé puis près de leur maximum de capacité pour le match qui suit.
Parce qu'une petite diarrhée en jouant, ça doit être fatigant, ça?
Ben, mettons que tes chiffres sont courts. Tu n'étais pas là longtemps, une mise en échec, puis tu reviens au banc.
Ah ouais? N'as-tu déjà vu des joueurs qui avaient les fesses serrées, puis ils disent, bon, ben, même là, durant la game, je vais aller au vestiaire. Moi, je suis pas blessé, mais je vais aller au vestiaire. Là.
Ah, c'est arrivé.
Max Talbot, je gage?
Non, je serais pas... Max, c'est un petit gars nerveux, il devait en faire 5-6 avant d'embarquer sa glace, fait qu'il est correct. Mais t'as bien des... Ça, c'est arrivé une couple de fois. Mais l'histoire à Luongo, qui a manqué le début, je sais pas si vous rappelez, en série éliminatoire, je crois que c'était, puis ouais. Il a pas été... Alors, il était en deux périodes de prolongation, je crois, puis il est resté dans... Il a pas été capable d'arriver sur la glace à temps. Il avait demandé aux officiels de l'attendre. Finalement, le match a commencé, puis c'était, je crois, Sabourin dans les buts pendant quelques minutes, puis... Le temps que Luongo finisse sa job, imagine, il est sur le banc, puis il se m'entend crier dans sa tête. Il dit, ben voyons donc, le jeu est commencé. Mettons que tu t'essuies assez rapidement.
Ah boy, c'est assez particulier. Bon, ben on a fait le tour des contaminations croisées. Ben merci beaucoup, Bruno. Fait que là, j'ai oublié de vérifier. Je sais pas, je serai pas là la semaine prochaine. Je sais pas si Paul Raphaël va te parler. Parce qu'il t'aime pas pantoute, lui. Fait que...
Il l'a dit.
Oui, je le comprends.
En tout cas, on va t'aviser, quelqu'un va t'aviser par texto sur la semaine prochaine. Sinon, nous, en tout cas, on se reparle dans deux semaines, c'est certain.
Ben, tu diras à Paul que je suis un bon gars, puis qu'il me donne une chance. Tu vas voir, je vais le convaincre.
Ah ouais? OK, parfait. Je vais lui dire ça, certain. Merci, Bruno.
Salut.
Au revoir, l'excellent Bruno Gervais, qui nous parlait de hockey, même si on est en saison morte. Oui, Pascal?
Plusieurs personnes mentionnent qu'on devrait demander un pourboire à Stéphane Dupont.
Un pourboire?
Oui. Le type, oui.
Ça, vous autres, ça vous demande?
C'est que les joueurs professionnels.
Oui. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pas manqué un bout de sa réponse, mais je ne voulais pas y revenir. Est-ce qu'il a parlé que les joueurs qui typent des fois un peu moins étaient d'origine étrangère?
Non, c'était une question que les gens demandaient peut-être
sur
Twitter.
C'était une question, ouais. OK. Mais je trouve ça pas bête parce que, tu sais, des fois, c'est une question de mentalité.
Ben, nous autres, les types sont pas inclus ces factures. En tout, c'est ce qu'on disait sur Twitch, là.
OK.
Étant donné que nous, on est habitués de typer parce que c'est pas inclus, peut-être qu'on a davantage,
mais je serais curieux.
Dans un vestiaire, puis Bruno a parlé de Shea Weber.
Ouais, c'est ça. Hein?
Il y a toujours un vétéran qui s'en occupe, là. Puis okay. Il va s'occuper que tu vas contribuer dans le pot.
Mais d'après toi, mettons, un joueur russe, là. Ça serait-tu du genre à moins typer ou mais ou à plus typer, tu sais. Quelqu'un qui vient d'un milieu pauvre, des fois, va être bien plus généreux que quelqu'un qui est un bébé gâté.
Avec les remparts, Radu a probablement été le plus généreux de la gang, là.
OK. Puis pourtant, ils n'étaient pas riches, là, je veux dire.
Non, ils donnaient à la hauteur de leur, moyens.
De leurs moyens, c'est ça. Parce que les gars de 20 ans, ils font un salaire de quoi? 500-600$ par semaine?
Oui, maintenant, oui.
Maintenant, c'est ça. Fait que... Non, moi, je me demandais ça, tu sais. J'ai l'impression que les Suédois se déménagent.
Non, il y a des Québécois qui sont capables d'être d'être cheap aussi, là.
Nomme-moi-en donc, ouais.
J'ai plein de noms.
Voyons, on a Gallo sur la ligne, il va nous en nommer quelques-uns. Ben non.
Gallo qui stole des clients, ça serait fantastique.
Un tel, là.
Hey, mais ça, dans la restauration, au niveau des pourboires, ils font attention, les employés. Mais oui, premièrement, c'est qui les... Les types de personnes qui vont être le moins généreux. À quel moment les pourboires sont les plus pourris?
Ben, les personnes âgées.
Oui, personnes âgées, puis surtout au déjeuner. Les gens qui vont, les serveurs et serveuses qui vont travailler pour des déjeuners, okay. Là, premièrement, pourquoi? Parce que dans un déjeuner, là, ils vont venir à la table plus souvent que dans un 5-7 au Château-Frontenac. Dans le sens où ils vont venir, l'accueil normal, ils vont t'emmener un café en premier. Ils ont oublié les édulcorants ou le sucre. Ben, puis il manque une crème. Après ça, ils vont venir prendre ta commande, le déjeuner. Le beurre de peanut, je prendrai un peu de sirop d'arabe. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup plus de visites à la table et de services à donner pour le déjeuner. Et le problème, c'est que le déjeuner, c'est une facture de moins de 10$, bien souvent. Ah oui. Mettons entre 10 et 15$.
Ouais, c'est
peu importe, là. Mais calcule ton 15% sur 15$, ça fait pas épais. Il reste pas une poignée de change, par visite. Fait que ça, je sais que c'est désagréable pour le monde de la restauration.
Mais souvent, les gens se basent sur les taxes pour donner pour boire. Fait que c'est sûr que si t'as pas une grosse facture.
C'est ça. Fait que si t'as pas une grosse facture, tu donnes beaucoup. Mais à l'inverse, des fois, là, maintenant, tu vas prendre une bouteille de vin à 150$ dans un restaurant. Moi, ça me fait suer, mais ça arrive des fois, là. Là, tu dis, tu sais, ta bouteille de vin, là, me coûte 150, ce qui est déjà exagéré, parce que je sais qu'à la sac, elle se vend 75. Mais 150, en plus, je vais redonner, 22$ de pourboire. Ça a dit bien,
là.
Ouais.
Puis elle va l'avoir ouvert la même manière que celle à 20$.
C'est ça.
Que t'aurais pu choisir.
Exactement. Fait que ça, c'est un peu... Mais je comprends que c'est le principe du pourcentage, puis que ça s'applique comme ça. Des fois, ça me gosse un peu, ça, le pourboire comme ça. Ou l'autre affaire, par exemple, puis ça, l'autre affaire, pire que les déjeuners que les serveurs de restaurants se font faire, c'est que si quelqu'un a eu une carte cadeau, ou bien qu'il reçoit quelqu'un qui travaille à radio, puis qui a un coupon, puis qui paye pas son repas.
Ouais.
Ça, c'est les pires. Là. Le monde des médias, c'est les pires. Je dis la radio, puis c'est les médias en général. Tu sais, j'en ai connu un de la télévision, un gars très connu de la TV, puis lui, il payait pas dans un tel restaurant. Mais il t'y paye pas.
Mais ça fait pas.
Il paye pas, il t'y paye pas. Il n'y a pas de montant de taxes. Hey, ça va pas, Johnny Boy?
Si tu payes là encore
qui?
Plus,
un Johnny Boy. Non, je l'appelle Johnny Boy. Vous savez très bien de qui je parle, mais en tout cas, je paye pas. Fait que.
Je suis prêt à peser sur le piton que tu nous le dises en dehors des ondes, là.
Non, on fera pas ça.
Mais il va falloir peser sur le piton.
On fera pas ça.
Johnny Boy.
Tu sais de qui je parle?
Pas encore.
Voyons.
Oui, mais.
Non. Tu sais pas de qui je parle?
Pas encore.
Voyons, attends, mon imitation est parfaite.
Mais sûrement, mon.
Voyons. C'est mon imitation du gars.
Est-ce que ça va bien, Stéphane? Est-ce que ton bras gauche est
engourdi? Ça va très, très bien. OK, laisse-le faire. Vous comprenez rien.
Ah ouais, on s'excuse.
On vient.